Livre troisième, le crime. Mais ce gouvernement horrible, hypocrite et bête, ce gouvernement qui fait hésiter entre l'éclat de rire et le sanglot, cette constitution gibet où pendent toutes nos libertés, ce gros suffrage universel et ce petit suffrage universel, le premier nommant le président, l'autre nommant les législateurs, le petit disant au gros « Monseigneur, recevez ses millions », le gros disant au petit « Reçois l'assurance de mes sentiments ». Ce Sénat, ce Conseil d'État, d'où toutes ces choses sortent-elles ? Mon Dieu, est-ce que nous en sommes déjà venus à ce point qu'il soit nécessaire de le rappeler ? D'où sort ce gouvernement ? Regardez, cela coule toujours, cela fume toujours, c'est du sang. Les morts sont loin, les morts sont morts. Ah, chose affreuse à penser, à dire, est-ce qu'on n'y songerait déjà plus? Est-ce que, parce qu'on boit et mange, parce que la carrosserie va, parce que toi, terrassier, tu as du travail au bois de Boulogne, parce que toi, maçon, tu gagnes 40 sous par jour au Louvre, parce que toi, banquier, tu as bonifié sur les métalliques de Vienne et sur les obligations Hop et compagnie, parce que les titres de noblesse sont rétablis, parce qu'on peut s'appeler Monsieur le Comte et Madame la Duchesse, parce que les processions sortent à la fête Dieu, parce qu'on s'amuse, parce qu'on rit, parce que les murs de Paris sont couverts d'affiches de fêtes et de spectacles. Est-ce qu'on oublierait qu'il y a des cadavres là-dessous ? Est-ce que, parce qu'on a été au bal de l'école militaire, parce qu'on est rentré les yeux éblouis, la tête fatiguée, la robe déchirée, le bouquet fané, et qu'on s'est jeté sur son lit et qu'on s'est endormi en songeant à quelque joli officier, est-ce qu'on ne se souviendrait plus qu'il y a là, sous l'herbe, dans une fosse obscure, dans un trou profond, dans l'ombre inexorable de la mort, une foule immobile, glacée et terrible, une multitude d'êtres humains déjà devenus informes, que les vers dévorent, que la désagrégation consume, qui commencent à se fondre avec la terre, qui existaient, qui travaillaient, qui pensaient, qui aimaient et qui avaient le droit de vivre et qu'on a tués. Oh, si l'on ne s'en souvient plus, rappelons-le à ceux qui l'oublient. Réveillez-vous, gens qui dormez, les trépassés vont défiler devant vos yeux. Extrait d'un livre inédit intitulé « Le crime du 2 décembre ». Note par Victor Hugo. Ce livre sera publié prochainement. Ce sera une narration complète de l'infâme événement de 1851. Une grande partie est déjà écrite. L'auteur recueille en ce moment des matériaux pour le reste. Il croit à propos d'entrer dès à présent dans quelques détails au sujet de ce travail qu'il s'est imposé comme un devoir. L'auteur se rend cette justice qu'en écrivant cette narration, austère, occupation de son exil, il a sans cesse présente à l'esprit la haute responsabilité de l'historien. Quand elle paraîtra, cette narration soulèvera certainement de nombreuses et violentes réclamations. L'auteur s'y attend. On ne taille pas impunément dans la chair vive d'un crime contemporain, et à l'heure qu'il est tout-puissant. Quoi qu'il en soit, quelles que soient ses réclamations plus ou moins intéressées, et afin qu'on puisse en juger d'avance le mérite, l'auteur croit devoir expliquer ici de quelle façon, avec quel soin scrupuleux de la vérité, cette histoire aura été écrite, ou, pour mieux dire, ce procès verbal du crime aura été dressé. Ce récit du 2 décembre contiendra, outre les faits généraux que personne n'ignore, un très grand nombre de faits inconnus qui y sont mis au jour pour la première fois. Plusieurs de ces faits, l'auteur les a vus, touchés, traversés. De cela, il peut dire « Quoque ipsi vidi et quorum pars fui », traduit du latin « Je les ai vus moi-même et j'en fus partie prenante », note ELG. les membres de la gauche républicaine, dont la conduite a été si intrépide, ont vu ces faits comme lui, et leur témoignage ne lui manquera pas. Pour tout le reste, l'auteur a procédé à une véritable information judiciaire. Il s'est fait, pour ainsi dire, le juge d'instruction de l'histoire. Chaque acteur du drame, chaque combattant, chaque victime, chaque témoin est venu déposer devant lui. Pour tous les faits douteux, il a confronté les dires et au besoin les personnes. En général, les historiens parlent aux faits morts, ils les touchent dans la tombe de leur verge de juge, et les font lever et les interrogent. Lui, c'est aux faits vivants qu'il a parlé. Tous les détails du 2 décembre ont de la sorte passé sous ses yeux. Il les a enregistrés tous, il les a pesés tous, aucun ne lui a échappé. L'histoire pourra compléter ce récit, mais non l'infirmer. Les magistrats manquant au devoir, il a fait leur office. Quand les témoignages directs et de vive voix lui faisaient défaut, il a envoyé sur les lieux ce qu'on pourrait appeler de réelles commissions rogatoires. Il pourrait citer tel fait pour lequel il a dressé de véritables questionnaires auxquels il a été minutieusement répondu. Il le répète. Il a soumis le 2 décembre à un long et sévère interrogatoire. Il a porté le flambeau aussi loin et aussi avant qu'il a pu. Il a, grâce à cette enquête, en sa possession près de 200 dossiers dont ce livre sortira. Il n'est pas un fait de ce récit derrière lequel, quand l'ouvrage sera publié, l'auteur ne puisse mettre un nom. On comprendra qu'il s'en abstienne. On comprendra même qu'il substitue quelquefois au nom propre, et même à de certaines indications de lieu, des désignations aussi peu transparentes que possible, en présence des proscriptions pendantes. Il ne veut pas fournir une liste supplémentaire à M. Bonaparte. Certes, pas plus dans ce récit du 2 décembre que dans le livre qu'il publie en ce moment, l'auteur n'est impartial, comme on a l'habitude de dire, quand on veut louer un historien. L'impartialité, étrange vertu que Tacite n'a pas. Malheur à qui resterait impartial devant les plaies saignantes de la liberté. En présence du fait de décembre 1851, l'auteur sent toute la nature humaine se soulever en lui. Il ne s'en cache point, et l'on doit s'en apercevoir en le lisant. Mais chez lui, la passion pour la vérité égale la passion pour le droit. L'homme indigné ne ment pas. Cette histoire du 2 décembre, donc, il le déclare au moment d'en citer quelques pages, aura été écrite, on vient de voir comment, dans les conditions de la réalité la plus absolue. Nous jugeons utile d'en détacher dès à présent et d'en publier ici même un chapitre. Note. L'auteur a voulu réserver uniquement au livre « Napoléon le Petit » ce chapitre, qui en fait partie intégrante. Il a donc réécrit, pour l'histoire d'un crime, le récit de la journée du 4 décembre avec de nouveaux faits et à un autre point de vue. Fin de note. Qui, nous le pensons, frappera les esprits en ce qu'il jette un jour nouveau sur le succès de M. Bonaparte. Grâce aux réticences des historiographes officiels du 2 décembre, on ne sait pas assez combien le coup d'État a été près de sa perte, et on ignore tout à fait par quels moyens il s'est sauvé. Mettons ce fait spécial sous les yeux du lecteur. Journée du 4 décembre, le coup d'État aux abois. 1. La résistance avait pris des proportions inattendues. Le combat était devenu menaçant. Ce n'était plus un combat, c'était une bataille, et qui s'engageait de toutes parts. À l'Élysée et dans les ministères, les gens pâlissaient. On avait voulu des barricades, on en avait. Tout le centre de Paris se couvrait de redoutes improvisées. Les quartiers barricadés formaient une sorte d'immense trapèze, compris entre les Halles et la rue Rambuteau d'une part et les boulevards de l'autre, et limité à l'est par la rue du Temple et à l'ouest par la rue Montmartre. ce vaste réseau de rues, coupé en tous sens de redoutes et de retranchements, prenait d'heure en heure un aspect plus terrible et devenait une sorte de forteresse. Les combattants des barricades poussaient leurs grands gardes jusque sur les quais. En dehors du trapèze que nous venons d'indiquer, les barricades montaient, nous l'avons dit, jusque dans le faubourg Saint-Martin et aux alentours du canal. Le quartier des écoles, où le comité de résistance avait envoyé le représentant de flotte, était plus soulevé encore que la veille. La banlieue prenait feu, on battait le rappel aux Batignolles. Madier de Mongeau agitait Belleville. Trois barricades énormes se construisaient à la chapelle Saint-Denis. Dans les rues marchandes, les bourgeois livraient leurs fusils. Les femmes faisaient de la charpie. « Cela marche ! Paris est parti !» nous criait B, entrant tout radieux au comité de résistance. Note. Un comité de résistance, chargé de centraliser l'action et de diriger le combat, avait été nommé le 2 décembre au soir par les membres de la gauche réunis en assemblée, chez le représentant Lafou, KGMAP numéro 2. Ce comité, qui dut changer 27 fois d'asile en 4 jours, et qui, siégeant en quelque sorte jour et nuit, ne cessa pas un seul instant d'agir pendant les crises diverses du coup d'État, était composé des représentants Carnot, De Flotte, Jules Favre, Madier de Mongeau, Michel de Bourges, Schœlcher et Victor Hugo. Fin de note. D'instant en instant, les nouvelles nous arrivaient. Toutes les permanences des divers quartiers se mettaient en communication avec nous. Les membres du comité délibéraient et lançaient les ordres et les instructions de combat de tous côtés. La victoire semblait certaine. Il y eut un moment d'enthousiasme et de joie où ces hommes, encore placés entre la vie et la mort, s'embrassèrent. « Maintenant, s'écriait Jules Favre, qu'un régiment tourne ou qu'une légion sorte. Louis Bonaparte est perdu. Demain, la République sera à l'hôtel de ville, disait Michel de Bourges. Tout fermentait, tout bouillonnait. Dans les quartiers les plus paisibles, on déchirait les affiches, on démontait les ordonnances. Rue Beaubourg, pendant qu'on construisait une barricade, les femmes aux fenêtres criaient « Courage !» L'agitation gagnait même le faubourg Saint-Germain. À l'hôtel de la rue de Jérusalem, centre de cette grande toile d'araignée que la police étend sur Paris, tout tremblait. L'anxiété était profonde. On entrevoyait la République victorieuse. Dans les cours, dans les bureaux, dans les couloirs, entre commis et sergents de ville, on commençait à parler avec attendrissement de Cossidière. S'il faut en croire ce qui a transpiré de cette caverne, le préfet Maupas, si ardent la veille et si odieusement lancé en avant, commençait à reculer et à défaillir. Il semblait prêter l'oreille avec terreur à ce bruit de marée montante que faisait l'insurrection. La sainte et légitime insurrection du droit. Il bégayait. Il balbutiait, le commandement s'évanouissait dans sa bouche. « Ce petit jeune homme a la colique !» disait l'ancien préfet Carlier en le quittant. Dans cet effarement, Maupas se pendait à Morny. Le télégraphe électrique était en perpétuel dialogue de la préfecture de police au ministère de l'Intérieur, et du ministère de l'Intérieur à la préfecture de police. Toutes les nouvelles les plus inquiétantes, tous les signes de panique et de désarroi arrivaient coup sur coup du préfet au ministre. Morny, moins effrayé, et homme d'esprit du moins, recevait toutes ces secousses dans son cabinet. On a raconté qu'à la première, il avait dit « Maupas est malade ». Et à cette demande « Que faut-il faire ?» avait répondu par le télégraphe « Couchez-vous ». À la seconde, il répondit encore « Couchez-vous ». À la troisième, la patience lui échappant, il répondit « Couchez-vous, je. » Le zèle des agents lâchait prise et commençait à tourner casaque. Un homme intrépide, envoyé par le comité de résistance pour soulever le faubourg Saint-Marceau, est arrêté rue des Fossés-Saint-Victor, les poches pleines des proclamations et des décrets de la gauche. On le dirige vers la préfecture de police. Il s'attendait à être fusillé. comme l'escouade qui l'emmenait passait devant la morgue, quai Saint-Michel. Des coups de fusil éclatent dans la cité. Le sergent de ville qui conduisait l'escouade dit aux soldats « Regagnez votre poste, je me charge du prisonnier. » Les soldats éloignés, il coupe les cordes qui liaient les poignets du prisonnier et lui dit « Allez-vous-en, je vous sauve la vie. N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai mis en liberté. Regardez-moi bien pour me reconnaître. » Les principaux complices militaires tenaient conseil. On agitait la question de savoir s'il ne serait pas nécessaire que Louis Bonaparte quittât immédiatement le faubourg Saint-Honoré et se transportât soit aux Invalides, soit au palais du Luxembourg, deux points stratégiques plus faciles à défendre d'un coup de main que l'Élysée. Les uns opinaient pour les Invalides, les autres pour le Luxembourg. Une altercation éclata à ce sujet entre deux généraux. C'est dans ce moment-là que l'ancien roi de Westphalie, Jérôme Bonaparte, voyant le coup d'État chanceler et prenant quelques soucis du lendemain, écrivit à son neveu cette lettre significative. « Mon cher neveu, le sang français a coulé. Arrêtez-en l'effusion par un sérieux appel au peuple. Vos sentiments sont mal compris. La seconde proclamation, dans laquelle vous parlez du plébiscite, est mal reçue du peuple, qui ne le considère pas comme le rétablissement du droit de suffrage. La liberté est sans garantie si une assemblée ne contribue pas à la constitution de la République. L'armée à la haute main, c'est le moment de compléter la victoire matérielle par une victoire morale. Et ce qu'un gouvernement ne peut faire quand il est battu, il doit le faire quand il est victorieux. Après avoir détruit les vieux partis, opérer la restauration du peuple, proclamer que le suffrage universel, sincère et agissant en harmonie avec la plus grande liberté, nommera le président et l'Assemblée constituante pour sauver et restaurer la République. C'est au nom de la mémoire de mon frère et en partageant son horreur pour la guerre civile que je vous écris. Croyez-en ma vieille expérience et songez que la France, l'Europe et la postérité seront appelées à juger votre conduite. Votre oncle affectionné, Jérôme Bonaparte. Place de la Madeleine, les deux représentants, Favier et Crestin, se rencontraient et s'abordaient. Le général Favier faisait remarquer à son collègue quatre pièces de canon attelées qui tournaient bride, quittaient le boulevard et prenaient au galop la direction de l'Élysée. « Est-ce que l'Élysée serait déjà sur la défensive ?» disait le général. Et Crestin, lui montrant au-delà de la place de la Révolution la façade du palais de l'Assemblée, répondait « Général, demain, nous serons là. » Du haut de quelques mansardes qui ont vu sur la cour des écuries de l'Élysée, on remarquait depuis le matin dans cette cour trois voitures de voyage attelées et chargées, les postillons en selle et prêtes à partir. L'impulsion était donnée, en effet. L'ébranlement de colère et de haine devenait universel. Le coup d'État semblait perdu. Une secousse de plus et Louis Bonaparte tombait. Que la journée s'achevât comme elle avait commencé et tout était dit. Le coup d'État touchait au désespoir. L'heure des résolutions suprêmes était venue. Qu'allait-il faire ? Il fallait qu'il frappât un grand coup, un coup inattendu, un coup effroyable. Il était réduit à cette situation, périr ou se sauver affreusement. Louis Bonaparte n'avait pas quitté l'Élysée. Il se tenait dans un cabinet du rez-de-chaussée, voisin de ce splendide salon doré où, enfant, en 1815, il avait assisté à la seconde abdication de Napoléon. Il était là, seul. L'ordre était donné de ne laisser pénétrer personne jusqu'à lui. De temps en temps, la porte s'entrebâillait et la tête grise du général Roguet, son aide de camp, apparaissait. Il n'était permis qu'au général Roguet d'ouvrir cette porte et d'entrer. Le général apportait les nouvelles, de plus en plus inquiétantes, et terminait fréquemment par ces mots « Cela ne va pas » ou « Cela va mal ». Quand il avait fini, Louis Bonaparte, accoudé à une table, assis, les pieds sur les chenets, devant un grand feu, tournait à demi la tête sur le dossier de son fauteuil, et, de son inflexion de voix la plus flegmatique, sans émotion apparente, répondait invariablement ces quatre mots « qu'on exécute mes ordres ». La dernière fois que le général Roguet entra de la sorte avec de mauvaises nouvelles, il était près d'une heure. Lui-même a raconté depuis ces détails à l'honneur de l'impassibilité de son maître. Il informa le prince que les barricades dans les rues du centre tenaient bon et se multipliaient, que sur les boulevards les cris « À bas le dictateur !» il n'osa dire « À bas Soulouk !» et les sifflets éclataient partout au passage des troupes, que devant la galerie Jouffroy, un adjudant-major avait été poursuivi par la foule, et qu'au coin du café Cardinal, un capitaine d'état-major avait été précipité de son cheval. Louis Bonaparte se souleva à demi de son fauteuil et dit avec calme au général, en le regardant fixement, « Eh bien, qu'on dise à Saint-Arnaud d'exécuter mes ordres. » Qu'était-ce que ces ordres ? On va le voir. Ici, nous nous recueillons, et le narrateur pose la plume avec une sorte d'hésitation et d'angoisse. Nous abordons l'abominable péripétie de cette lugubre journée du 4, le fait monstrueux d'où est sorti tout sanglant le succès du coup d'État. Nous allons dévoiler la plus sinistre des préméditations de Louis Bonaparte. Nous allons révéler, dire, détailler, raconter ce que tous les historiographes du 2 décembre ont caché, ce que le général Magnan a soigneusement omis dans son rapport, ce qu'à Paris même, là où ces choses ont été vues, on ose à peine se chuchoter à l'oreille. Nous entrons dans l'horrible. Le 2 décembre est un crime couvert de nuit, un cercueil fermé et muet, des fentes duquel sortent des ruisseaux de sang. Nous allons entr'ouvrir ce cercueil.